Bonjour à toutes et à tous. Dans les séries Netflix, on voit très souvent dans ces riches intérieurs, ou alors aussi dans les immeubles de bureaux, des mobiliers de qualité, des mobiliers, on peut dire, modernes, et notamment une série qui est caractérisée par des gros tubes d'acier chromé et de forme cubique, pour les fauteuils et pour les canapés, et avec des grands coussins de cuir noir, et également une, on peut dire, une chaise longue qui est avec pareil le même emploi de tube chromé et qui peut pivoter latéralement. Alors, ces meubles, il faut le rappeler, c'est une série qui s'appelle LC, avec chaque meuble ayant un numéro, a été créé par Le Corbusier LC, et dans les années 30. Et donc, cette série est éditée par Cassina, qui en a l'exclusivité. Cassina est un marchand, fabricant de meubles de cette qualité, de ces meubles modernes, italiens. Et donc, je vous le disais, il a l'exclusivité. Alors, ces mobiliers paraissent aussi sur Facebook, où on a très souvent des intérieurs modernes, et on a cette chaise longue notamment. Alors, la réaction immédiate, la plupart du temps, c'est quand on dit Le Corbusier, c'est des gens bien intentionnés rectifient en disant ce n'est pas Le Corbusier, c'est Charlotte, ou Charlotte Perriand, ou Perriand. Charlotte, ça fait très familier, comme si c'était une amie. Alors évidemment, on rectifie, ce ne serait pas donc Le Corbusier qui aurait créé ces meubles, mais c'est Charlotte Perriand, et donc le féminisme est tout à fait satisfait d'enlever à un supposé macho la paternité de ce mobilier, et de l'attribuer à Charlotte Perriand. Alors j'ai déjà fait une émission là-dessus pour expliquer l'histoire, qui est assez compliquée mais éclairante sur notre époque. Alors elle est éclairante parce qu'effectivement elle met en jeu le néo-féminisme, qui cherche à dire, avec certainement certaines fois des justes raisons, qu'il y a des femmes oubliées dans le milieu artistique, ou des femmes qui sont, on peut dire, cachées, qui n'ont pas été reconnues à leur juste valeur. C'est aussi certainement valable dans d'autres domaines, comme la science, mais ce n'est pas mon domaine pour en parler, je n'ai aucune compétence dans ces domaines-là. Bon, revenons à notre histoire de Le Corbusier. Alors, il y a eu, on peut dire, une campagne qui s'est traduite par une exposition très importante à la Fondation Vuitton, qui, comme chacun le sait, c'est LVMH et M. Arnault, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, qui est derrière cela. Alors évidemment, ça va faire très bien aussi de participer à l'esprit du temps, et les ouvrages qui ont été publiés, ainsi que les conférences, évidemment, reconstituent une histoire, et une histoire qui me paraît assez rêvée. Alors, si je vous reparle de cette histoire, c'est que ça touche des sujets qui sont aujourd'hui très importants, qui sont le droit d'auteur. Et le droit d'auteur, avec également tout son prolongement qui va être de plus en plus important avec les machines intelligentes, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et les questions qui sont liées à cela, qui sont des questions à la fois, peut-être à la fois métaphysiques, et aussi bassement financières. Et justement, notre affaire de Charlotte Perriand me semble surtout une affaire financière. Alors, je rappelle que la propriété artistique est justement sur le mobilier. Alors, quand il s'agit d'architecture, l'architecture, effectivement, il y a des droits sur les photos. Personne ne les applique, personne ne le fait, et moi-même, je n'ai jamais touché un sou par rapport à la reproduction de mes bâtiments. Alors, il en est de même pour des architectes très connus, ou très peu utilise ce droit, mais enfin ce droit existe. Ceci, évidemment, n'a rien à voir avec ce que l'on peut payer par des objets, entre guillemets, de design qui sont produits industriellement, et chaque fois qu'ils sont vendus, il y a donc un droit qui revient au créateur et aussi à ses héritiers. Alors, la loi française est très solide là-dessus. Il faut rappeler que le droit d'auteur est une invention heureuse par bon marché. Avant, les auteurs pouvaient être pillés et il n'y avait aucune protection par rapport à cela, à la fois pour la protection, on peut dire, de morale, c'est-à-dire la possibilité de l'utiliser en le déformant, et il n'y avait aussi aucune protection, on peut dire, financière. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait jouer les pièces de Molière sans passer par le paiement de cela. Il en était le même des ouvrages, des poèmes, de la musique, etc. Donc, bon marché construit ce droit d'auteur, et ce droit d'auteur, maintenant, il s'applique dans tous les pays du monde, et c'est devenu, on peut dire, le cœur de notre économie actuellement, puisque avec le développement de l'informatique, des jeux, des logiciels, ce droit d'auteur est au centre de ces industries qui sont pour essentiellement virtuelles, qui ne produisent pas des produits industriels. Donc, quand on parle de la richesse de Bill Gates ou des profits cumulés d'Apple, de Microsoft, et aussi, on en parlait de LVMH, il s'agit de produits qui ne peuvent pas être copiés, qui sont vendus authentiques, et comme les logiciels ne peuvent pas être copiés, toutes ces sociétés vivent essentiellement de ces droits d'auteur. Donc c'est un sujet extrêmement central et important dans nos économies. Alors, pour revenir à l'histoire de Perian, de Le Corbusier et de ce mobilier, et je vous rappelais donc que non seulement l'artiste, le créateur, reçoit de son vivant les fruits de son travail et de son invention et de sa création, mais les héritiers, pendant 70 ans, ont le droit et le devoir de percevoir cela. Alors, la SACEM, par exemple, tout le monde le sait, c'est sur la musique, et il y a après des sociétés qui sont chargées de récupérer, ou alors quand c'est directement, par exemple, dans le cas de mobilier, c'est le fabricant à la fois et distributeur et marchand, qui le verse. Et il a intérêt à le verser, puisqu'en fait, il en a l'exclusivité. Et que si ce droit n'était pas reconnu, il perdrait son exclusivité et on pourrait le copier et il ne bénéficierait pas justement de la protection juridique qui est faite sur les copies fausses et ce qui est évidemment, encore une fois, au cœur de nos économies modernes. Alors, 70 ans, dans le cas de Le Corbusier et de Charles de Perriand, il se trouve que Le Corbusier, qui est mort en 1965, eh bien dans 12 ans, ça va se terminer. C'est-à-dire que Charles de Perriand, qui était qui était plus jeune, et qui non seulement était plus jeune, mais qui a vécu jusqu'à, je crois, 95 ans, et qui est morte donc en 1999. Donc, il reste 46 ans. 46 ans, c'est important. Ça fait quasiment deux générations où les héritiers de Périan vont toucher cela. Alors, on pourrait dire pourquoi les héritiers de Le Corbusier ne sont pas battus. Mais bien sûr, parce que de toute façon, les héritiers de Le Corbusier, alors Le Corbusier n'avait pas d'enfant, mais c'est la fondation qui a ses droits. Et la fondation Le Corbusier, qui est à Paris, vit essentiellement, justement, de ses royalties. Et il faut dire aussi que la famille Périan, et elle le reconnaît, la fille, le gendre, la petite fille, qui sont évidemment des ambassadeurs empressés de cette construction de la gloire de Charles de Perriand et de son rôle qu'elle aurait eu dans la création de mobilier avec Le Corbusier et aussi plus tard dans sa vie, évidemment sont des bénéficiaires et vont l'être pendant longtemps. Donc tout le monde a intérêt à rallonger. Et d'ailleurs, ça avait été le cas pour le célèbre Boléro de Ravel. Ravel n'avait pas d'enfant. Il avait cédé ses droits à sa femme de ménage. Et après des vicissitudes, c'est passé à des gens qui n'avaient rien à voir ni avec la femme de ménage, ni avec Ravel. Et le Boléro de Ravel est une œuvre extrêmement jouée. Et chaque fois qu'elle était jouée, il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec Ravel, mais qui avaient récupéré ses droits d'auteur, qui touchaient des fortunes mensuelles et qui pouvaient vivre grandement, uniquement avec cela. Alors il est évident que quand les 70 ans sont passés, ce qui a été le cas il y a quelques années, on a essayé d'ajouter, de construire une histoire où Ravel aurait été avec un producteur de ballet et que on pouvait donc rajouter le producteur de ballet ou je ne sais pas ou si c'était quel était le rôle exact, mais en tout cas le mettre comme co-auteur et on était reparti pour quelques dizaines d'années de plus. Bon, ça a été refusé et donc c'est tombé dans le domaine public et aujourd'hui vous pouvez jouer le Boléro de Ravel. Bon, c'est un peu difficile à jouer tout seul, mais enfin, vous pouvez jouer le Boléro de Ravel sans payer de droits. Voilà, ça s'appelle tomber dans le domaine public. Alors, on va marquer une pause musicale et puis je vais vous raconter ma version un peu différente de cette histoire et de ces retombées sur le plan à la fois artistique et à la fois financier.
Shape up, 'cause I need a man. I'm not.
Oui, alors nous continuons notre histoire avec Le Corbusier et Charlotte de Perriand. Alors, moi, évidemment, je n'ai pas de position par rapport au rôle des femmes dans la création artistique, bien sûr. Alors, ce qu'on peut considérer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont des professions qui sont grandement féminisées, les professions de designer, les professions d'architecte, mais que dans l'histoire, ça n'était pas pour des raisons qui ne sont pas forcément liées on peut dire, au machisme, mais qui sont beaucoup plus lié à un métier qui était très, on peut dire, un métier de chantier, un métier de aussi probablement plus dangereux, et que les femmes, ne serait-ce que par les robes, ne pouvaient pas être dans la gadoue et dans la boude, ce qui n'est évidemment tout à fait différent aujourd'hui, et les chantiers modernes sont aussi totalement différents de ces chantiers d'avant. Donc il y a des raisons objectives à cela. Évidemment, ça ne veut pas dire que les femmes soient différentes et il n'y a pas de sexe dans la production artistique, en tout cas dans le domaine de l'architecture, je pense dans tous les domaines d'ailleurs, mais enfin dans ce domaine-là en particulier. Donc, l'histoire de Le Corbusier et de Charlotte Perriand ne serait pas gênante si, pour les besoins de la cause, on était obligé, évidemment, si on met quelqu'un à l'avant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va passer derrière. Et quand il s'agit d'une seule personne, c'est un peu embêtant parce que reconstitue une histoire avec un Le Corbusier bah, qui serait quelque part un voleur, un vilain macho qui a exploité le génie des autres et ne serait pas, se serait pas servi. Alors aujourd'hui, la profession d'architecte, on a des architectes qui ont des pratiques tout à fait différentes de celles, on peut dire, de ces grands créateurs de cette époque. Ça fonctionne comme les agences de pub, où on a des équipes de créateurs qui donnent des idées, et l'architecte, on peut dire, c'est une sorte de faire-valoir d'homme d'affaires. Bon, je vais nommer personne, mais tout le monde peut trouver cela parmi, on peut dire, les figures stars qui produisent évidemment infiniment plus avec ce type de procédé où on fait marcher des équipes que l'on met en concurrence dont on s'attribue la paternité. Alors là, effectivement, il y a des problèmes un peu compliqués par rapport à cela, mais avec Le Corbusier, on est dans une autre époque. Bon, enfin, il y a évidemment beaucoup de gens qui continuent à travailler de la même manière, mais en tout cas, avec Le Corbusier, c'était quelqu'un qui était assez, on peut dire, solitaire, certainement autoritaire aussi, et qui dessinait absolument tout, et les personnes qui travaillaient pour lui avaient on peut dire, peu de place dans le processus créatif. Ils avaient évidemment ce qui est la nécessité dans ces métiers, la nécessité de faire beaucoup de dessins. Donc il y a une main-d'œuvre qui doit être importante. Puis après, il y a des prototypes, il y a des vérifications à faire sur le chantier. Enfin, tout ça est assez compliqué et on peut dire ça n'a pas changé pour l'essentiel. Alors, dans le cas de Charlotte Perriand, où j'avais rappelé que elle était juste jeune diplômée, elle avait 24 ans, Le Corbusier avait 20 ans de plus, 44 ans, et il était déjà un architecte très connu. Donc, ce que l'on pourrait regarder, c'est la suite de l'histoire. Donc, Charlotte de Perriand a travaillé pendant 10 ans pour Le Corbusier, mais elle n'avait pas eu d'ailleurs, personne n'avait d'ailleurs de position très centrale pour le Corbusier qui était, comme je vous disais à l'instant, autoritaire et qui maîtrisait tout. Donc, dans ce cas, ce qu'on peut regarder, c'est l'œuvre ensuite. Alors, l'œuvre ensuite, bah, elle n'est pas tout à fait différente de ça, et vraiment, on peut dire que ces meubles sont du Le Corbusier et que Charles de Perriand, par la suite, le mobilier que l'a fait, tout en bénéficiant évidemment de l'aura de Le Corbusier, que l'a su bien exploiter, et pourquoi pas, il n'y a rien à dire. Mais on peut dire que Charles de Perriand faisait des meubles assez rustiques en bois, enfin totalement différents de ce qu'avait fait Le Corbusier. Alors là où l'histoire devient un peu plus désagréable et inquiétante, au-delà de faire passer Le Corbusier pour un voleur et un vilain misogyne, c'est que Le Corbusier aujourd'hui, si vous regardez, Charles de Perriand aujourd'hui, si vous regardez sur Internet par exemple, l'œuvre qu'on a, on peut dire la biographie qui a été construite notamment pour cette exposition, faisait d'elle la pionnière du design, la pionnière du vivre dans les cuisines, dans l'habitat moderne. Bon, tout ça évidemment était faux. Il y a le mouvement du Bauhaus qui est en Allemagne quelques années avant, et donc ce sont des constructions totalement fictives. Mais enfin, il y a une chose qui me paraît plus grave, c'est que il y a une station qui est la station des Arcs, qui a été remarquable par son architecture et qui l'est toujours, et qui a été construite par une équipe d'architectes très importante, avec des gens qui étaient des spécialistes qui s'appelait l'atelier de la montagne, et qui a fait cette station. Une station, c'est une ville. Il y a 30 000 lits. Et si vous regardez sur Internet, vous avez Charles de Perriand qui a construit la station des Arcs, où elle a tout fait. Elle a fait l'urbanisme, elle a fait l'architecture, elle a fait le mobilier et l'aménagement intérieur. Bon, alors on dit dans certains textes d'Internet qu'elle avait eu l'assistance de l'atelier de la montagne. La plupart du temps, elle n'est pas nommée, aucune personne, ils ne sont pas nommés. Et on a l'impression que de ses petites mains, Charles de Perriand a construit une ville entière. Donc, alors Charles de Perriand n'est pas architecte, elle n'a pas pu signer les bâtiments, et elle n'a pas non plus la formation d'architecte, quoi qu'elle dise, et ce qu'elle disait, j'ai travaillé 10 ans chez Le Corbusier, ça a été mon école d'architecture. Les choses ne sont pas aussi simples. Et donc, on a, notamment sur une émission de télévision où on voyait promoteurs, constructeurs de la station qui parlait, interviewé de Charles de Perriand en disant ouais, elle avait de très grandes qualités pour aménager les studios et elle faisait gagner des mètres carrés. Alors évidemment, les promoteurs adorent ça quand les architectes font les décorateurs ou les designers font gagner des mètres carrés. Bon, c'est certain qu'elle avait fait ces aménagements. Alors, mais une station de montagne, c'est extrêmement complexe et ça demande d'abord, je pense, des spécialisations, et ça demande aussi des équipes très conséquentes, ne serait-ce que sur un plan juridique, sur un plan des assurances, enfin tout ça est quand même une fantaisie. Alors, au-delà de rétablir la vérité et d'avoir aussi faire apparaître des gens qui sont totalement dans l'ombre du fait justement de la préséance de Charles de Perriand, ce qui est quand même assez embêtant, il y a quelque chose qui est très gênant, et c'est de penser qu'une seule personne peut faire une ville de 30 000 logements. Et ça, c'est très embêtant, parce que justement, au moment où on parle de l'intelligence artificielle, où les robots vont remplacer les humains, on peut dire, il y a une personne, on met à la place un robot et tout se fait tout seul. Alors, Aujourd'hui, on parle du fait que justement cette robotisation est en marche, et il y a un livre qui est publié actuellement d'un certain Susskind et qui dit que on va avoir le travail qui va être supprimé et que la civilisation qui va arriver, c'est une civilisation où les robots vont tout faire, à la fois les tâches intellectuelles et les tâches manuelles, et on n'aura que du loisir et que le monde va tellement changer. Alors là, on peut quand même évidemment douter, mais il est vrai que ce type, on peut dire, d'aventure telle qu'elle est racontée par rapport à cette histoire de Charles de Perriand est un exemple aussi de choses qui sont totalement fausses et qui peuvent avoir une très mauvaise nous donner une très mauvaise compréhension du monde. Alors, la semaine dernière, dans une émission sur France Culture qui s'appelle L'Esprit public, le dimanche matin, on parlait justement de l'intelligence artificielle et du fameux ChatGPT, et un des intervenants disait que ça pourrait être une révolution dans le bâtiment, parce que on allait avoir de plus en plus des imprimantes 3D qui allaient construire des bâtiments. Et il disait, on pourra se passer donc des architectes et des ouvriers, parce que le robot fera tout seul. Alors il est évident que on revient à notre sujet, et il faut dire que c'est assez naïf, parce que les imprimantes 3D, ce sont des grosses machines qui dégueulent une sorte de pâte molle isolante, mais de la manière dont on construisait ou on construit encore des maisons, des huttes en boue, et aussi le béton peut être qui est liquide. Et à un mode de construction qui est totalement différent de l'assemblage de briques, de l'assemblage de panneaux, de l'assemblage de pierres, et de l'assemblage aussi d'éléments de bois. Donc en fait, le fait d'avoir une pâte molle qui durcit, c'est vieux comme le monde, et je pense que ça a des limites, et ça n'a, il n'y a aucun danger pour qu'il y ait un changement radical dans ces domaines. Et non seulement il n'y aura pas de changement radical, me semble-t-il, mais en plus, pour répondre à ces questions d'emploi qui sont au centre de nos sociétés, avec la question des retraites et du changement de société dans laquelle nous allons être. Alors il est évident qu'il y a un grand nombre de tâches pénibles, et c'est très heureux qui sont supprimées ou allégées, mais qu'il n'en demeure pas moins, et pour reprendre le sujet qui est le sujet du bâtiment, le bâtiment étant le premier employeur dans notre pays, et je pense peut-être certainement partout, le bâtiment, ben, il n'y aura quand même pas de changement très important. Alors, ne serait-ce que par exemple dans les rénovations, et un pays comme le nôtre a des bâtiments magnifiques dans des époques anciennes et même pas très anciennes, et la rénovation ne pourra pas être faite par des robots. Alors, les robots peuvent faire, comme je vous disais, des tâches répétitives, mais on aura besoin, au contraire, je crois, de plus en plus de gens qui seront des ferronniers, des doreurs, des gens qui pourront faire des vitraux, etc. Donc aujourd'hui, ce patrimoine que nous avons, et si Madame Bachelot dit que on devrait démolir les églises 19e qui ne servent plus parce que les cultes chrétiens ou du monde catholique reculent, bah, on a des bâtiments qui sont des bâtiments de qualité et en tout cas qui ont des savoir-faire de matériaux, de pierres, de sculpteurs, de doreurs, etc. Qui méritent d'être continués pour d'autres usages, et la société trouvera différents usages pour cela. Voilà, donc je termine sur une note qui n'est pas d'une note du tout pessimiste, mais qui montre, encore une fois, que le monde ne change au final qu'à la marge et que les progrès ne sont pas forcément des éléments négatifs, mais que on peut imaginer un monde encore où le travail artistique, le travail de l'artisanat sera aussi producteur de richesses, de bonheur. Et pour cela, il faut maintenir les savoir-faire et il n'y a aucune crainte pour que les robots remplacent les hommes.